La radiographie du coronavirus. Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
Et ce matin, vous souhaitez nous expliquer ce qu'est la stratégie de repositionnement de médicaments.
Oui, en fait, ça concerne beaucoup de recherches de traitements dont je vous ai déjà parlé ici. Et il nous semblait, avec l'équipe de la méthode scientifique, qu'il était important de faire un petit point sur ces méta-stratégies de recherche pour comprendre de quoi il retourne. Développer un médicament, ça coûte très cher et ça prend beaucoup de temps. Ce qui peut paraître évident lorsqu'on l'explique, à savoir l'effet de telle molécule sur telle protéine. Lorsque l'on part de rien, il faut des mois de ce que l'on appelle le screening, c'est-à-dire des essais massifs in vitro à l'aveugle de certaines des molécules avant d'en trouver une qui puisse commencer à présenter un intérêt thérapeutique. Pour vous donner une idée, la mise au point d'un médicament en partant de zéro jusqu'à sa commercialisation, c'est en moyenne entre 10 et 17 ans de recherche pour un budget de 2 milliards. Or, on peut aller plus vite que ça grâce à une stratégie donc de repositionnement. On présente souvent, pour résumer, l'action des médicaments comme l'effet d'une molécule sur un récepteur unique. En réalité, si un médicament a bien un effet principal, qui peut être potentialisé, il agit en fait sur d'autres récepteurs, sur d'autres cellules, en moyenne entre 6 et 12 cibles cellulaires différentes. C'est ce qu'on appelle tout simplement les effets secondaires. Le repositionnement a pour objectif de pré-cibler certaines molécules en fonction de ces effets secondaires connus pour les tester sur de nouveaux pathogènes pour voir si ces effets secondaires peuvent devenir en quelque sorte l'effet principal. C'est une stratégie déjà très largement employée en cancérologie notamment, où on réutilise une molécule qui agit sur une enzyme cellulaire dans le cancer du sein par exemple pour la repositionner sur une même enzyme mais dans le cancer de la prostate. Aujourd'hui, jusqu'à 40% des médicaments approuvés par l'Agence de sécurité sanitaire américaine sont le fruit de molécules repositionnées. Et la durée de recherche et le coût s'en retrouvent très très nettement amputés. On passe à une moyenne de 3 à 8 ans de recherche pour un budget de moins de 10 millions d'euros. Et évidemment, en période de crise sanitaire, les chercheurs espèrent bien aboutir encore plus rapidement en seulement quelques mois.
Mais alors, comment appliquer cette stratégie pour le SARS-CoV-2 ?
Exactement. Alors aujourd'hui, il y a environ 600 essais cliniques qui portent sur des traitements qui ont été recensés pour moins d'une vingtaine de molécules qui portent sur les deux grandes phases de la maladie, la première phase infectieuse, virologique, et la deuxième phase inflammatoire et immunitaire. Pour la première, ce sont principalement des antiviraux qui sont testés ou des molécules dont on sait qu'une de leurs caractéristiques est de gêner ou d'empêcher la réplication virale. C'est le cas, entre autres, de l'hydroxychloroquine qui est à l'origine d'un traitement de la polyarthrite rhumatoïde à l'origine, je vous rappelle, mais aussi du remdesivir qui bloque la réplication du génome viral ou du lopinavir qui sont tous trois d'ailleurs dans l'essai européen Discovery. Ensuite, il y a les immunosuppresseurs qui empêchent le déclenchement de la tempête inflammatoire avec des molécules comme les interférons bêta, la chlorpromazine, qui est, comme je vous l'expliquais il y a quelques jours, un antipsychotique, ou l'anticorps monoclonal tocilizumab. Pour l'heure, aucune de ces stratégies ne semble avoir donné de résultats incontestablement significatifs et les études restent en cours. Mais un récent article publié dans Nature propose une autre solution qui est la constitution d'une sorte de carte d'interaction protéique pour en quelque sorte mieux viser l'interaction entre les protéines virales et les protéines humaines. Pour cela, l'équipe a produit 26 des 29 protéines du SARS-CoV-2 in vitro dans des cellules humaines pour voir quelles sont celles qui interagissent. C'est un peu comme aller à la pêche, si vous voulez. Il plonge ces protéines virales dans des cellules et regarde celles qui s'accrochent, tout simplement. Les chercheurs ont identifié 332 interactions possibles, en recréant donc cette carte d'interaction que j'évoquais, et ils ont identifié 69 composés qui pourraient correspondre aux protéines humaines concernées et qui sont soit déjà approuvés par une agence de médicaments, soit en cours d'essai clinique. Pour l'instant, 10 de ces composés ont montré des actions antivirales. L'Institut Curie en France a lancé une initiative similaire et tâche de regrouper les travaux de 150 chercheurs dans 24 pays différents, ce qui devrait aboutir à une carte d'interaction similaire et orienter les chercheurs vers les médicaments les plus susceptibles d'être repositionnés efficacement.
Merci beaucoup Nicolas Martin.